I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour et bienvenue dans Milkshaker, le podcast qui agite les idées reçues sur l'allaitement. Je suis Charlotte Bergerot-Palisco, je suis la maman d'un petit garçon de 2 ans que j'ai allaité durant 1 an et je suis la créatrice de ce podcast. Dans la vie, je suis ostéopathe et spécialisée en périnatalité. Je m'occupe des femmes en général, de leur désir de grossesse à leur postpartum, des bébés et des enfants. J'accompagne spécifiquement certaines problématiques d'allaitement en libérant les bébés des tensions qui les empêchent de téter correctement, permettant un allaitement serein pour la mère et l'enfant. Au fil des consultations, je me suis rendu compte que le principal frein à l'allaitement, c'était le manque d'informations, de partage d'expériences et de vécu dans une société où l'allaitement n'est pas une norme. Je vous propose donc d'interroger avec moi des mères et des pères sur leurs expériences, mais aussi de vous informer auprès de professionnels spécialisés en allaitement. Mon objectif est simple, vous informer, vous donner des clés pour faire des choix en conscience, banaliser l'allaitement sous toutes ses formes, vous le rendre plus accessible, plus facile, et alimenter ce fameux village dont on a tant besoin pour élever un enfant. Si vous aimez ce podcast et que vous souhaitez le soutenir, c'est très simple. Notez-le, abonnez-vous et mettez un commentaire avec 5 étoiles de préférence en fonction de votre plateforme d'écoute. Mais surtout, partagez-le sur les réseaux sociaux @milkshakerpodcast pour le faire connaître. Vous avez désormais la possibilité de faire un don pour soutenir Milkshaker et par la même occasion soutenir une association. En effet, 50% des dons seront reversés à des associations qui en ont besoin. Ce mois-ci et jusqu'au 1er juillet 2021, Milkshaker commence très simplement par soutenir IJI, une association pour laquelle je suis bénévole en tant qu'ostéopathe, fondée par Catherine Ribus et qui a pour vocation de prodiguer des soins ostéopathiques gratuits pour les femmes et les enfants. J'y tiens tout particulièrement car c'est cette association qui m'a permis de connaître Catherine et c'est par ce biais que nous nous sommes découvertes et lancées dans l'aventure folle de créer en région parisienne un centre de soins pour les femmes et les enfants. Pour plus d'informations et pour faire un don, rendez-vous donc sur mon site internet charlotte-bergerot.fr, rubrique Milkshaker. Et comme il se dit couramment que c'est avec de petits ruisseaux qu'on fait de grandes rivières, je vous précise qu'il n'y a pas de petits dons. Et maintenant, place à l'épisode. Camille Bataillon est sexologue clinicienne, co-créatrice d'une plateforme en sexologie nommée Mia.co et spécialisée en sexo-périnatalité. Elle accompagne les couples dans leur vie intime lors de la période autour de la grossesse et du postpartum. On a décidé, dans cet épisode avec Camille, de parler sexualité et allaitement. On balaye différents sujets grâce aux connaissances et l'expérience qu'elle a en tant que sexothérapeute. On commencera par parler des seins, de leur fonction nourricière première, mais aussi de la zone érogène qu'ils sont durant les rapports. Comment on se situe en tant que femme entre les deux fonctions de notre poitrine et comment notre partenaire peut se situer durant l'allaitement. On parlera bien sûr allaitement et libido. Est-ce normal d'avoir une baisse de libido en allaitant? Est-ce lié à l'allaitement ou plutôt à cette période de postpartum dans laquelle tous nos repères sont bousculés? On en profitera pour faire un point sur les douleurs intimes en postpartum et se demander quand consulter. Qu'est-ce qui influe sur cette libido en postpartum et qu'est-ce qui est normal? On évoquera aussi l'allaitement comme contraception. Est-ce une méthode fiable tant que le retour de couche n'est pas arrivé et quelles sont les conditions à respecter? Camille nous dit tout sur l'allaitement et la sexualité, comment se réharmoniser avec soi-même et son partenaire. Elle vous rassure, vous déculpabilise, vous oriente et ça fait du bien. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Camille, bienvenue dans Milkshaker.
Coucou Charlotte, merci de me recevoir.
Avec plaisir. Camille, est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui nous écoutent et qui ne te connaîtraient pas?
Oui, bien sûr. Je suis Camille Bataillon, je suis sexologue clinicienne et co-créatrice d'une plateforme en sexologie qui s'appelle Mia.co et je suis aussi spécialisée en sexopérinatalité, c'est-à-dire que j'accompagne les personnes, les couples dans leur vie intime, dans ce moment de grossesse et de postpartum. Et d'ailleurs, je sors un livre, alors je ne sais pas à quel moment... ce podcast sortira, mais le livre paraîtra le 15 juin sur Réinventer sa vie intime après bébé.
Ouais, je pense qu'on sera dans ces eaux-là, peut-être un petit peu avant, donc à venir le livre de Camille. Alors Camille, ça fait bien longtemps que je veux faire un épisode sur allaitement et sexualité, parce que je trouve que c'est un sujet qui est important, qui est évidemment tout comme l'allaitement, mais la sexualité aussi, bourré d'idées reçues, donc le mix des deux va faire un joli milkshaker. Et voilà, je voulais commencer avec toi. On a mis une boîte à questions cette semaine sur Milkshaker et puis il y a plusieurs questions qui sont revenues. Entre elles, il y a beaucoup de questions au sujet des seins en eux-mêmes. Les mamans, elles voulaient savoir si c'était une zone qu'on pouvait utiliser. J'ai eu une question qui disait, est-ce que les boobs sont utilisables ? Je trouvais la question trop mignonne pendant les rapports. Est-ce qu'il reste une zone érogène ? Est-ce que c'est normal s'ils sont douloureux ? Est-ce qu'il y a des différences d'une femme à l'autre ? Qu'est-ce qui est normal et qu'est-ce qui n'est pas normal ? Et j'ai une autre question après pour toi. Vas-y.
Ok, ça marche. Bah déjà, si les seins sont douloureux, par contre, je recommanderais peut-être voir une conseillère en lactation, si c'est possible, de voir s'il y a pas, les seins ne sont pas un petit peu avec une congestion pour vraiment pour éviter de ressentir de la douleur. Alors, par rapport au fait qu'ils soient utilisables, je pense, là, c'était par rapport à la vie intime. Il faut savoir qu'il y a des études qui ont été faites justement sur ce complexe mamelon-aréole, les tétons, qui en fait, qui a son importance en tant que zone érogène dans la réponse sexuelle féminine. Il y a plus de 80% des femmes pour qui justement la stimulation des seins vient augmenter le plaisir et la satisfaction dans les rapports.
Donc, ok.
Il faut savoir aussi que dans l'allaitement, c'est un contexte particulier parce que l'allaitement, le bébé est au sein, du coup, les seins sont quand même pas mal accaparés, on va dire, par le nourrisson. Et donc, ça va aussi dépendre aussi par rapport à la personne, de comment elle se sent par rapport à ça. Parce qu'il y a pour certaines femmes de se dire, moi, j'ai déjà mon enfant au sein toute la journée, j'ai pas envie de forcément d'avoir mon mari ou ma conjointe à mes seins aussi. Donc, il y en a pour qui certaines, au moment de l'allaitement, ça va être un moment où plutôt le sein va être dédié, on va dire, à l'enfant. Et pareil aussi pour le ou la partenaire, où justement, pendant l'allaitement, c'est « Ok, cette zone, on n'y touche pas. »
Peut venir des deux côtés, finalement.
Ouais, c'est vu comme un sein nourricier et plus un sein qui peut être sexualisé. Vous voyez ?
Ok.
Donc, ça, c'est tout à fait ok. Ça rentre dans une phase d'allaitement. Après, il y a aussi pour certaines personnes qui allaitent et qui prennent... Alors, on parle aussi... j'ai des fois des femmes qui ont aussi cette... elles culpabilisent de ressentir de l'excitation aussi quand elles allaitent. On en parle peu aussi.
Ouais, c'est vrai, c'est un sujet dont on parle peu, mais en effet, ça peut être un retour...
Ouais, et justement, on revient sur ce complexe mamelon-aréole et le fait de ressentir du plaisir pendant l'allaitement, déjà parce qu'il y a une sécrétion d'ocytocine qui fait qu'on se sent bien, mais aussi parce que du coup, c'est la réponse physiologique, une réaction physiologique. Donc, c'est pas parce que vous ressentez du plaisir que vous avez envie de votre enfant. Donc, c'est plutôt une réponse physiologique. Et là, si par exemple, parce qu'il y en a qui peuvent culpabiliser, du coup, arrêter d'allaiter par rapport à ça.
Ah, d'accord, ça va jusqu'à l'arrêt.
Pour certaines, justement, comme il y a cette inconfort ou ce sentiment de culpabilité de « c'est pas normal, pourquoi je ressens du plaisir quand mon enfant est au sein ?» Alors peut-être de pouvoir être suivi par rapport à ça, être accompagné, juste pour pouvoir déposer comment la personne se sent, parce que ça serait dommage si elle a envie de continuer à allaiter, d'arrêter par ce sentiment de culpabilité, alors que c'est quelque chose de physiologique.
Ok, très bien. Donc du coup, si on résume, les seins restent... sont une zone érogène parmi d'autres et ils peuvent le rester durant l'allaitement. C'est vraiment finalement à chacun de voir avec son propre ressenti, le ressenti de son partenaire. Et puis, j'imagine, une des clés dans ces cas-là, c'est la communication. Donc, se parler, se dire ce qu'on ressent et respecter le désir et les ressentis de l'autre.
Ouais, et c'est tout à fait OK si on n'a pas envie d'être touché sur cette zone.
Oui, c'est toujours celui qui dit non qui décide.
En tout cas, comme tu dis, on communique là-dessus, comme ça, il n'y a pas de zone d'ombre, juste exprimer comment vous ressentez aussi par rapport à la situation.
Ok. Il y a un truc qui revient très souvent, c'est que pendant le rapport, et en particulier au moment de l'orgasme, il peut y avoir des éjections de lait. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ça fait ça, comment ça fonctionne et qu'est-ce qu'on en fait ?
Ouais, c'est le réflexe du coup d'éjection, et c'est dû, alors quand on a un orgasme, on va sécréter de l'ocytocine, et ce réflexe d'éjection, il peut arriver justement en fin de grossesse et puis quand on allaite. Et donc quand on a ce sentiment de plaisir, eh bien on va sécréter de l'ocytocine, et en fait en sécrétant de l'ocytocine, c'est aussi ce qui va produire ce réflexe d'éjection. Et donc, pareil, là, ça dépend des réactions, du sentiment de chacun et chacune. Il y en a pour qui, on rigole, il n'y a rien de très grave. Et pour d'autres, au contraire, c'est presque comme si, oh mince, j'ai fait pipi dans mon lit. Enfin, ce sentiment de culpabilité, qu'est-ce qui se passe ? Mon corps, qu'est-ce qu'il fait ? Et puis, comment aussi la partenaire réagit par rapport à ça ? Est-ce que c'est un sentiment de dégoût ? Ou plutôt, écoute, je goûte, ou écoute, je sais que c'est aussi physiologique et tu as eu du plaisir. Et comme tu as l'aide, c'est aussi normal qu'il y ait des fois ce réflexe d'éjection.
Ok, très bien. Ouais, donc, c'est tout à fait normal. Ça n'arrive pas à tout le monde, mais faites-en finalement ce que vous voulez.
C'est un signe que vous avez du plaisir aussi, quoi.
C'est le moment sinon d'enfiler vos, comment on appelle ça là, les recueillets.
Ah oui, alors bien mettre la... Oui, puis voilà, pour les personnes pour qui ça pourrait déranger, alors de garder la brassière avec justement des coussins ou les petits coquillages pour recueillir le lait, comme ça,
ouais.
Le tire-lait.
Pas de perte de temps, recueil de lait, choup, ça fait du lait pour le lendemain.
On associe le plaisir et l'utilité.
Non, mais écoutez, le lait, j'ai déjà dit, mais c'est super bon pour la peau, donc si quelqu'un se fait une milk shower, c'est parfait, quoi. C'est parfait, ça règle toutes les imperfections. Profitez du lait maternel de votre partenaire.
Surtout si vous avez faim aussi pendant l'acte.
Le lait maternel est très nourrissant, donc profitez-en.
Bon, là, bien sûr, on rigole, mais c'est vraiment, chacun, chacune, selon sa sensibilité, selon son niveau de confort par rapport à ça.
Ok, très bien. Ça nous amène à un deuxième sujet. Est-ce que tu penses qu'on a tout dit au sujet des seins ? Alors, si peut-être revenir, peut-être ton avis, toi, en tant que sexologue, sur la sexualisation, finalement, du sein dans notre société. C'est vrai que c'est un des trucs qu'on pense qui entrave, tu vois, la normalisation un peu de l'allaitement, parce qu'aujourd'hui, le sein est quasiment exclusivement vu comme quelque chose de sexuel et justement pas nourricier. Et d'ailleurs, les questions qu'on a eues juste avant découlent de ça. Alors, le sein, a priori, s'il a été construit, c'est à la base, en tout cas, c'était pour nourrir les bébés. Et aujourd'hui, c'est vraiment plutôt un objet sexuel dans l'esprit des gens. Qu'est-ce que tu peux dire, toi, en tant que sexologue, là-dessus, du point de vue, justement, du sexe ?
Oui, c'est pour ça que c'est difficile aussi, cette dualité entre le sein qu'on a presque tout au long de notre vie sexualisé, mais que les autres ont sexualisé aussi, et soudainement, il vient sein nourricier, mais en même temps, le sein nourricier garde sa fonction aussi, comme on disait, là, qui peut être aussi, il fait partie aussi, il peut faire partie d'une zone érogène. Et des fois, il y a cette dualité entre, ce sein qui doit ne plus rien ressentir et servir juste à l'allaitement, mais en fait, il ressent encore des choses sexuelles, comment je me sens par rapport à ça. Puis aussi, la perception des gens de se dire, ce sein qu'on sexualise, si je le découvre et pour allaiter, qu'est-ce que les gens vont penser ? Est-ce que je suis à l'aise avec ça ? Et souvent, ce qu'on voit, en tout cas en France aussi, mais l'allaitement, ça reste quand même quelque chose du coup que les personnes cachent ou ne font pas en public, ou essayent vraiment de se couvrir parce qu'elles ne se sentent pas forcément à l'aise de découvrir complètement le sein. Et c'est pour ça que maintenant, il y a plein de vêtements d'allaitement aussi pour allaiter tout en discrétion.
Ouais, et ça, même comme ça pose problème, quoi. Même comme ça, on voit encore des histoires de gens qui se prennent des remarques, voire, voire pire, parce que c'est dans l'esprit des gens, c'est quand même beaucoup plus sexuel que nourricier, quoi.
Oui, alors que, comme tu disais, la fonction du sein, s'il existe et s'il produit du lait après un accouchement, c'est que il a une certaine fonction. Et donc, il faut arrêter ça. Mais ça passe par le changement des mentalités, d'éduquer et d'arrêter d'objectifier le corps de la femme aussi.
Ouais. Ok, très bien. Alors ensuite, on voulait parler allaitement et contraception. On a eu plusieurs questions à ce sujet-là, parce que c'est vrai qu'il se dit que pendant l'allaitement, donc le retour de couche est retardée. Et donc, les mamans nous ont posé la question de savoir voilà, comment ça marche, allaitement et contraception.
Mmh. Oui, alors par rapport à ça, c'est une très bonne question. Alors, pareil, comme je te disais, c'est pas ma spécificité là-dedans, dans la contraception, parce que je veux vraiment faire attention aussi et donner les bonnes informations. Souvent, ce qu'on entend parler, c'est la méthode MAMA. Qui est du coup la méthode d'allaitement et d'aménorrhée, qui il faut respecter plusieurs critères et il y a toute une liste, mais dont par exemple il faut être avec un allaitement exclusif, c'est-à-dire d'allaiter au moins toutes les 4 à 6 heures max, vraiment pour que le sein soit stimulé, parce que quand justement le sein est stimulé, qu'il y a l'allaitement, il y a le niveau de prolactine qui augmente et du coup ça freine l'ovulation. Mais aussi, il faut que bébé ait moins de 6 mois. Il ne faut pas que les règles soient revenues. Tu parlais de la tétine aussi. Enfin, il y a beaucoup de critères qui font que pour que ça marche vraiment, et en plus, ça marche pas dans 100% des cas, ça marche dans 90% des cas. Mais encore, je trouve que ça rajoute une certaine charge mentale par rapport aux personnes. Donc moi, ce que je dirais, cette méthode dit MAMA, OK pour les personnes qui sont OK aussi d'avoir un enfant, qui sont OK pour une grossesse aussi qui arrive. Pour les personnes qui vraiment ne souhaitent pas une autre grossesse, je le ferai en complément d'autres choses, d'une contraception qui vous convient évidemment, qui peut être sans hormones aussi, donc ne pas hésiter à en parler à votre professionnel de santé, voilà, pour ne pas prendre aucun risque et surtout pas rajouter une charge mentale supplémentaire aussi par rapport à la contraception. Hein. On parle de charge mentale, mais il y a aussi une charge contraceptive. Et est-ce qu'on ne peut pas se dire, est-ce que ce n'est pas le moment justement pour peut-être l'homme, le père, de prendre en charge aussi cette contraception ?
Ouais. Ouais, c'est vraiment une méthode. En fait, ça peut marcher très très longtemps et pour certaines, ce sera des intervalles même plus longs qui continueront de fonctionner et de retarder le retour de couche. Mais je vous rappelle que la première fois où vous avez vos règles après l'accouchement, c'est qu'il y a déjà eu une ovulation en fait. Donc bon, il suffit d'une fois pour que ça fonctionne. Comme dit Camille, c'est une méthode qui existe, un peu comme la méthode des températures existe. Ça peut très bien fonctionner pour certaines, moins pour d'autres. Je pense qu'il faut être assez à l'aise avec l'idée que sur le papier, ça peut marcher, mais que dans la réalité, un bébé qui tète, qui espace une tétée parce qu'il a fait une bonne nuit, c'est très vite arrivé. Enfin, je vous le souhaite, en tout cas, qu'il dorme. Et donc, du coup, ça peut vite donner lieu à une autre grossesse. Alors, si vous êtes à l'aise avec ça en vous disant, advienne que pourra, s'il y a une autre grossesse, on la garde, super. Si c'est un truc qui n'est pas du tout dans vos projets, voilà, on vous invite plutôt à aller vers une autre contraception en complément. Donc ça peut être le préservatif, en effet, pour que le papa joue son rôle aussi. Les deux cumulés, ça peut être quand même...
Il y a la contraception thermique aussi pour les hommes.
La contraception thermique, voilà, des hommes. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur le sujet, c'est pas Camille qui a tourné cet épisode-là, mais il y a un épisode très intéressant chez Papatriarcat sur le sujet avec un mec qui la pratique. Et voilà, donc allaitement et contraception, oui et non, oui sur le papier, petits intervalles de tétée, pas plus de 4 heures la journée, pas plus de 6 heures la nuit, pas de biberon, pas de tétine, ça fait pas mal de critères à remplir, donc...
C'est peut-être aussi le moment justement, et peut-être pas en postpartum, mais plutôt... justement pendant la période de grossesse, d'en parler avec le conjoint, parce que là, on parle de couple hétérosexuel par rapport à la contraception, mais d'en parler avec le conjoint et de se dire comment on fait une fois que bébé est là par rapport à la contraception. Est-ce que déjà, est-ce qu'on souhaite espacer les naissances? Et si oui, alors, qu'est-ce qu'on décide? Que ce soit vraiment une décision aussi commune, que ça ne repose pas sur les épaules de la femme, puisqu'il faut être deux pour faire un enfant et que les hommes sont fertiles tout le temps.
Exactement. Ensuite, grand sujet, l'allaitement et la libido. Alors, la grande idée reçue quand même, c'est quand même que l'allaitement est une entrave à la sexualité, que la libido est dans les chaussettes, et puis parfois c'est vrai, c'est un ressenti de toute façon à des femmes. Et j'aimerais qu'on en parle aussi, des deux côtés, parce qu'on parle souvent des femmes qui ont une baisse de libido pendant l'allaitement, mais finalement, à l'inverse, c'est un peu comme ça marche pendant la grossesse, on voit des femmes qui ont des libidos au taquet pendant la grossesse, et puis en fait des mecs qui sont là, oh là, non, pas du tout, ou des conjointes qui disent non, moi pas du tout. Et pendant l'allaitement, je crois que c'est un peu pareil. et donc c'est important de parler des deux côtés parce que tout ne repose pas sur, sur la femme qui allaite.
Oui, effectivement, souvent il y a cette croyance aussi que c'est la femme qui a moins envie, alors que ce n'est pas tout le temps le cas, donc on va voir tout ça. Déjà, il faut savoir que en postpartum, après avoir accouché, voilà, il y a plus de la moitié des femmes qui ressentent une baisse de désir dans les 3 mois postpartum. Les recherches qui ont été faites là-dessus ont montré qu'effectivement, un des plus gros facteurs qui faisait que on retardait la prise d'activité sexuelle était par rapport à l'allaitement. Donc entre des femmes qui allaitent et des femmes qui donnent le biberon, celles qui donnent le biberon reprennent plus rapidement l'activité sexuelle, à une différence près de 1 semaine.
Ah.
Donc on met le bon dos sur l'allaitement. Mais alors, donc quand on allaite, il se passe plusieurs choses au niveau hormonal, au niveau psychologique. Donc peut-être on va expliquer déjà au niveau hormonal ce qui se passe, parce que souvent les femmes se disent « mais voilà, j'aimerais avoir envie, mais je sens qu'il n'y a pas du tout cette envie-là ». Et donc des fois, de comprendre ce qui se passe au niveau physiologique, ça peut aider. Donc comme je disais, quand on allaite, il y a un niveau de prolactine qui augmente. Et quand ce niveau de prolactine est haut, ça vient diminuer le taux d'androgène, le taux de testostérone. Et on sait que plus on a un taux de testostérone bas, bah moins on a d'intérêt pour la sexualité. Donc déjà, ça peut s'expliquer à ce niveau-là. Aussi, quand on allait, on a un niveau bas d'ostrogène qui peut expliquer des sécheresses vaginales. Donc ça, on y reviendra plutôt après.
Ouais.
Quand on allait, on a aussi ce sentiment de connexion aussi avec l'enfant. L'enfant est très souvent aussi corps à corps, peau à peau. Donc, au niveau ocytocine, au niveau de bien-être, souvent, la maman qui allait, elle se sent déjà comblée. Et elle ne ressent des fois pas forcément le besoin d'être peau à peau avec le partenaire ou la partenaire. Et c'est là où, des fois, le ou la partenaire peut être en manque en se disant, moi, je n'ai pas ce peau à peau. Et du coup, réclamer des fois des rapports intimes parce qu'il y a ce manque de connexion. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre par rapport à ça? Alors oui, par rapport à la baisse de libido qui peut s'expliquer de différentes manières et qui s'explique aussi, là, si on parle au niveau psychologique, c'est autant les mamans que les papas ou la partenaire. C'est déjà l'extrême fatigue aussi après l'accouchement.
Bien sûr, c'est le postpartum dans son intégralité finalement, même hors allaitement. C'est pour ça d'ailleurs que la différence, elle doit être finalement pas si importante entre allaitement et pas allaitement, c'est que outre le fait qu'on a un bébé au sein toute la journée, on est claqué en postpartum.
Oui, claqué, le corps qui a changé, une perte un peu de repère, qui je suis, parce qu'on va construire une nouvelle identité, on est dans la matrescence. Son rôle aussi, la dynamique dans le couple, ça change, la dynamique dans la famille aussi. La charge aussi, par rapport aux tâches ménagères aussi, ça ajoute là-dessus. Donc je disais, oui, il y avait la fatigue, le changement de statut, la charge, le rapport au corps, peut-être aussi des douleurs, ça par rapport aux femmes, des douleurs au niveau de la vulve qui peuvent impacter aussi la libido. Et par rapport au partenaire, c'est ça, c'est exactement pareil. Fatigue, changement de rôle, de voir peut-être aussi sa femme qui est aussi devenue mère, comment le ou la partenaire se sent avec ça aussi. Donc c'est une période de transition qui des fois fait rentrer le couple dans une sorte de tourbillon parce qu'il faut prendre ses marques et ça peut prendre du temps. Mais ce que les études montrent, c'est que déjà, après une année, généralement, le couple revient à ce qui était avant, dans un sens où, pas dans ce qui était avant, pardon, mais plutôt à une vie intime qui les satisfasse.
Ouais, ok, un équilibre différent, mais qui les satisfait.
Ouais.
Ok, donc du coup, ça se joue vraiment sur différents plans. On a l'aspect vraiment purement hormonal dont tu parlais tout à l'heure avec cette prolactine qui est haute et qui fait baisser les hormones qui, elles, déclenchent le désir sexuel. On a le côté que la maman peut être un peu comblée par ce peau à peau et donc être moins en demande de l'intimité avec son partenaire. Et ça, c'était les deux grandes catégories vraiment un peu physiologiques, c'est ça. Et après, on a l'aspect... postpartum en général, en effet, matrescence, changement d'identité, changement de tout finalement, changement de rythme de vie, fatigue et changement pour tout le monde, pas que pour la maman, c'est la mère qui change, en fait tout le monde change et ça c'est le principe de toute façon de l'arrivée d'un enfant.
Et le donc, focus les cartes, change aussi du coup.
Ouais, le focus change tout à fait et donc du coup toutes les cartes sont redistribuées. Moi, je dis souvent en consultation, pas tellement rapport à la sexualité, mais en règle générale, je leur dis ne cherchez pas à retrouver l'équilibre d'avant, cherchez-en un différent, parce que de toute façon, tout a changé. Là, ouais. Toutes les cartes sont redistribuées. Donc, essayez plutôt de faire un nouveau château et pas de.
C'est ça. Et c'est pour ça que. Précédent. Et c'est pour ça que dans mon livre, j'ai pas dit retrouver votre vie intime après bébé, j'ai mis réinventer. C'est-à-dire ouais. qu'on va se recréer, c'est une opportunité en fait de faire des choses différentes. Peut-être qu'on a des envies aussi différentes, peut-être que la sexualité d'avant, ben, on aimerait qu'elle change, on aimerait mettre de nouvelles choses, on aimerait réajuster, c'est le moment opportun pour le faire.
Ok, très bien. Et question, est-ce que c'est la même chose qu'importe le rang du bébé, c'est-à-dire que ce soit un premier, un deuxième, un troisième, est-ce qu'il y a dans les études ou même toi, ce que tu vois au quotidien, est-ce qu'il y a une différence entre un premier bébé qui arrive et qui la bouleverse complètement l'équilibre, le deuxième qui bouleverse peut-être un peu moins en termes de changement identitaire, mais qui quand même, pour le coup, en termes de fatigue, met quand même une sacrée claque de temps en temps. Le troisième, on dit que ça passe toujours un peu plus crème, enfin voilà, c'est une idée reçue, Qu'est-ce que toi, tu notes, tu vois, au fur et à mesure des maternités?
Ouais. Alors, au niveau des recherches, ça, j'en ai aucune idée. Je ne sais même pas, d'ailleurs, s'il y a des recherches là-dessus. Après, par rapport à ta question, je dirais que ça dépend pareil des personnes, parce qu'il y en a certaines pour qui le deuxième enfant, effectivement, ça va créer une fatigue en plus et du coup, ça va vraiment impacter la libido. Pour d'autres, comme il y a déjà eu un premier enfant, bah, ils sont mieux préparés pour le deuxième. Et du coup, bah, ça se passe beaucoup mieux. Par contre, là où il y a eu des études, c'est par rapport à la charge, je reviens encore là-dessus, mais à la charge domestique. En fait, la charge domestique, elle augmente pour les femmes selon le nombre d'enfants. Et ça, on sait que ça a un impact aussi fort par rapport à la vie intime, parce que... Et ouais. Ils se sont rendus compte dans les études que plus la conjointe sont investis dans les tâches ménagères, qu'il y a un certain équilibre, et plus ces couples-là ont aussi une vie intime plus satisfaisante.
D'accord, ok. Ouais, et je crois que c'est quand j'avais écouté ton épisode chez Papa Patriarcat, tu parlais de cette charge domestique et tu disais c'est comme si pour certaines, les rapports finalement c'était une charge de plus.
Bah oui, et puis surtout, le fait... alors effectivement, si par exemple la femme s'occupe de tout, bon, bah, il y a d'une part la fatigue encore en plus, mais deuxièmement, peut-être de sentir cette frustration, de sentir qu'on ne fait pas une équipe, d'avoir cette boule dans la gorge et de ne pas pouvoir, de pas pouvoir sentir que l'autre est aussi inclus, et du coup de sentir déconnecté avec l'autre, et donc de moins envie d'avoir de rapports sexuels, et aussi des fois... Pas des fois, mais pour beaucoup de couples, la sexualité, c'est un petit peu comme un commerce. C'est-à-dire que, ok, j'ai des rapports avec toi parce que tu l'as mérité.
Ah.
Et que du coup, si, tu ne fais pas, si tu ne fais pas, si tu ne prends pas ta part de responsabilité ou si tu as dit un mot de travers ou quoi que ce soit, bah, tu ne mérites pas d'avoir du sexe avec moi.
Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured, or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with 5 different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum.
Okay. D'accord, oui, c'est vu, c'est donnant-donnant, quoi, c'est ça?
Ouais, c'est vu comme donnant-donnant, souvent. Donc là, il y a pas mal aussi de choses à décortiquer là-dessus. Mais bref, pour retenir, ce qui est important, c'est que chacun prenne sa part de responsabilité dans cette parentalité, puisse communiquer sur comment ensemble on s'organise dans cette nouvelle structure familiale qui vient aussi shifter la structure du couple. Et donc c'est vraiment quelque chose à discuter ensemble, c'est pas parce que du coup on sent qu'on fait équipe quand on communique ensemble et qu'on essaye ensemble de trouver des solutions pour le bien-être de chacun et chacune.
Ok, très bien. Ouais, donc la base pour une sexualité épanouie finalement en tant que parent, c'est commencer par discuter du quotidien et de tout ce qu'il y a à faire autre que ça pour que tout le monde arrive à ce moment-là serein.
Ouais, et souvent, oui, et puis souvent en consultation, vont dire ah, baisse de libido, etc. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et en fait, des fois, c'est simplement déjà de revoir la structure de leur organisation au sein de leur couple, au sein de comment ils organisent leur vie de tous les jours, les tâches ménagères, qui va aussi impacter en fait peut-être plus grandement sur leur vie intime. Des fois, on n'y pense pas, mais ça joue en fait. C'est pas des petits trucs, c'est des choses qui, quand ça ne se passe pas bien, c'est quand même très lourd.
Ok. Et je reviens sur l'aspect allaitement, taux de prolactine qui est haut, les hormones qui sont basses, et donc l'aspect physiologique. Les démarrages d'allaitement sont différents d'un allaitement au plus long cours parce que petit à petit les tétés s'espacent. Est-ce que du coup les taux baissent et que tu vois ça fait remonter aussi les hormones qui permettent d'avoir du désir? Est-ce que c'est vraiment quelque chose, cette physiologie qui est vraie dans les démarrages d'allaitement et qui est moins vraie ensuite, ou c'est quelque chose qui perdure peu importe le temps d'allaitement?
Bah là, oui, je parlais par exemple de physiologie, mais quand même dans le désir sexuel, c'est quand même souvent psychologique. C'est-à-dire que, ok, on peut mettre les hormones, etc., elles ont bon dos, mais des fois, les personnes disent, ok, c'est parce qu'il y a l'allaitement, ok, c'est parce qu'il y a cododo, par exemple. Mais en fait, dès qu'il n'y a plus l'allaitement, ou dès qu'il n'y a plus le cododo, peu importe, la vie intime n'est pas revenue. C'est souvent parce qu'il y a eu cet espace-temps où il s'est rien passé, entre guillemets, pour le couple. Il n'y a rien qui a été nourri, mis en place pour que le couple érotique continue de vivre. Donc
D'accord.
oui, il y a au fur et à mesure aussi des mois d'allaitement, etc. C'est peut-être possible que les taux diminuent un peu. Et des fois, la personne va retrouver, mais c'est aussi des fois, est-ce que je me suis retrouvée moi aussi en tant que femme? Est-ce que j'ai du temps pour moi? Est-ce que je me sens bien dans mon corps? Je pense que c'est ça qui va beaucoup plus influencer que simplement niveau physiologique, surtout après
Ouais.
quelques mois.
Ouais, retenez qu'avoir du temps pour l'autre, c'est d'abord avoir du temps pour soi. Il faut d'abord
Ah
se retrouver soi-même avant de. Sinon, en effet, c'est une charge de plus.
oui, et c'est souvent ça, ce qui revenait dans les témoignages aussi, c'est voilà, je passe toute la journée, j'ai les enfants sur le dos, etc. Et ensuite le soir, quoi, je dois écarter les jambes pour mon mari. C'était violent hein, quand
Ouais,
j'entendais ça, mais
un peu.
ça semblait comme un devoir et comme bah, en fait, ce qui était criant de vérité chez elle, ce qui en fait elle souhaitait dire, c'était qui s'occupe de moi? Et
Ouais.
souvent, bah, les femmes, on s'occupe beaucoup des autres, mais on s'oublie soi.
Yes. Donc occupez-vous de vous.
Et c'est plus facile à dire qu'à faire, parce que souvent, c'est oui,
Ouais.
mais j'ai pas le temps. Et donc, c'est vraiment pareil, un travail d'équipe, c'est d'arriver à avoir tout ce village qui peut vous aider aussi là-dedans. C'est arriver à demander de l'aide. Il n'y a pas de honte là-dessus, de prendre du temps pour vous, c'est pas égoïste. Il y en a des fois qui me disent non, mais c'est égoïste. Non, prenez exemple sur ceux qui, les personnes qui, enfin, prendre du temps pour vous, ça va vous nourrir, vous allez vous sentir mieux et en fait, c'est un bien-être pour vous, mais aussi du coup, ça va avoir des répercussions pour votre enfant. Et vous apprenez aussi à votre enfant à lui montrer à quel point c'est important qu'il prenne soin de lui aussi.
Oui, bien sûr. Ok. Ensuite, on a eu quelques questions sur les douleurs au niveau vaginal, sur les sécheresses. Est-ce qu'il y a un réel lien entre sécheresse vaginale et allaitement? Je crois que tu as commencé à nous répondre tout à l'heure. Et est-ce que il peut y avoir. J'avais une question sur est-ce que l'allaitement peut créer des contractions vaginales et donc des douleurs au rapport?
Ouais. Je vais peut-être répondre à celle-là d'abord. Est-ce que l'allaitement peut créer des contractions vaginales? Donc là, donc j'imagine c'est la personne qui dit elle est en train d'allaiter, elle ressent des contractions vaginales. Alors, quand on allaite, on peut ressentir des contractions utérines, surtout en postpartum ou justement avec l'ocytocine qui va venir contracter l'utérus pour qu'il se remette en place. Donc, je ne sais pas si la personne voulait dire ça plutôt qu'elle ressentait des contractions utérines.
Ça
Faut des
s'appelle les tranchées.
Ouais,
Donc,
les
c'est vraiment
tranchées.
les contractions que vous avez post-accouchement et que vous avez même si vous n'allaitez pas, en fait, d'ailleurs, hein, parce que l'utérus revient à sa place dans le bassin.
Reprend sa forme. Par rapport aux contractions vaginales, là, je me disais, est-ce que c'est parce que peut-être la personne, ce qu'elle souhaitait dire, c'était elle allaite, et est-ce que dans sa sexualité, si elle ressent des contractions vaginales, ça peut être dû. Là, je ne savais pas vraiment quelle était vraiment sa question.
Ben, je sais pas, moi je l'avais compris que ouais, qu'elle avait des contractions vaginales et que du coup ça rendait les rapports douloureux.
Oui, ok, donc pas pendant qu'elle est en train d'allaiter, du coup. Ok,
Moi je
donc,
l'ai compris comme ça, mais bon,
ouais.
allez.
Ouais, donc si c'est ça, alors si par exemple, voilà, vous avez des contractions vaginales au moment des rapports intimes, qui soit du coup rendent les rapports intimes avec pénétration douloureux Ça s'appelle les dyspareunies, quand on a des douleurs pendant les rapports ou après les rapports. Soit cette personne-là a des contractions vaginales qui du coup font que les muscles qui entourent l'entrée du vagin, le périnée, les muscles qui entourent l'entrée du vagin sont tellement contractés que ça rend une pénétration impossible. Ça, c'est du vaginisme. Donc ça, c'est pas le fait que c'est l'allaitement qui va causer ça. Ce qui peut causer des dyspareunies ou du vaginisme, surtout si c'est arrivé après l'accouchement, parce que c'est encore autre chose si c'était déjà depuis un moment. Mais si c'est arrivé après l'accouchement, ça peut être OK. Comment s'est passé l'accouchement? Est-ce qu'il y a eu quelque chose de traumatisant? Est-ce que vous avez eu le temps aussi d'avoir cette réappropriation de votre corps, de votre vulve? Est-ce que vous avez encore des douleurs au niveau de la vulve qui font que peut-être vous appréhendez les rapports intimes avec pénétration et du coup, vous avez tellement peur et cette appréhension que c'est plus safe, c'est sûr pour vous de ne pas avoir de rapport intime et donc le corps fait bien son job et vous empêche, entre guillemets, d'avoir des rapports avec pénétration. Est-ce que vous vous sentez connecté avec votre partenaire? Enfin voilà, il y a d'autres enjeux par rapport à ça. Si vous vous retrouvez dans cette situation, ce qu'on conseille, c'est de consulter en fait. C'est pas normal d'avoir des douleurs. Et c'est dommage de rester trop longtemps aussi avec des douleurs parce que ça peut se soigner aussi aisément quand on a les professionnels qui vous entourent.
Ouais, et là je vais profiter pour faire un petit point là-dessus parce que bon, moi vous le savez, je suis ostéopathe et je travaille beaucoup avec les bébés, mais je travaille énormément avec les mamans. Et l'ostéopathie peut être une solution oui. Dans ces cas-là. Il y a une ostéopathie qui s'appelle l'ostéopathie urogynécologique qui travaille sur ces tensions-là. Donc il ne faut pas que vous restiez. Alors ça vaut même avant accouchement, mais là puisqu'on parle de l'allaitement, on parle après. Les douleurs au rapport ne sont pas normales, les douleurs pendant les règles ne sont pas normales, même de façon plus générale, et votre bassin peut être le siège de tension. Après un accouchement, je vous laisse imaginer qu'un bébé qui est passé dans cet espace si petit, où il y a normalement une vessie, un utérus, un rectum, des bouts de côlon de chaque côté, et tous les ligaments qui soutiennent tout le monde, s'il passe là-dedans, plus ou moins doucement, aisément, plus ou moins on l'a tracté vers le bas avec des forceps à la fin, plus ou moins il était mal positionné, donc du coup il a fallu pousser comme une dératée pour le sortir, ou alors c'est allé très vite. Le corps, il peut avoir gardé vraiment un environnement disharmonieux avec des tensions qui ensuite se ressentent dans ces moments où en fait ça bouge au niveau utérin ou vaginal. Et il y a des solutions pour ça. Ce n'est pas normal de rester douloureuse pendant les rapports. Donc c'est vraiment quelque chose qui doit vous faire consulter. Cette cicatrice d'épisio, elle a le droit de râler un peu pendant 15 jours. Passer ce stade-là, ce n'est pas normal. Une cicatrisation au niveau des muqueuses, ça va relativement vite. Si cette cicatrice, elle râle, venez consulter. Voyez des ostéopathes qui sont spécialisés dans le domaine. C'est vraiment très important et ça change tout.
Et d'ailleurs, dans les témoignages que j'ai recueillis pour mon livre, j'ai été effarée de voir à quel point la plupart des femmes disaient avoir des douleurs. Des douleurs, ça revenait sans cesse, les douleurs d'épisiotomie, etc. Et je me disais, waouh, il y a tellement de personnes qui sont dans cette souffrance-là. Et donc, comme tu disais, Charlotte, et c'est bien que tu parles de l'ostéo, parce que c'est vrai que c'est, même nous, en tant que sexologue, c'est pas forcément quelque chose qu'on recommande, parce qu'en fait, on le sait pas, on connaît pas assez. Donc, c'est bien que tu mettes les mots dessus. Et souvent, ce qu'on va dire par rapport à ces douleurs, c'est d'avoir un accompagnement physiologique, donc avec ostéo, kiné, etc., vraiment un travail aussi manuel, et psychologique. Parce que des fois, bah, c'est les petits restes aussi de trauma ou de connexion à son corps. Quand vous faites le double accompagnement, c'est là où on voit aussi des bénéfices pour réduire les douleurs et vraiment vivre après une vie intime beaucoup plus plaisante.
Oui, tout à fait. Et puis là, vraiment, c'est un gros sujet. Hein. Là, de toute façon, l'intimité des femmes est un gros sujet qui est beaucoup trop passé sous silence. Et quand cette intimité est douloureuse, parfois, vous ne trouvez pas de réponse parce que parfois, les professionnels médicaux eux-mêmes sont dans cette idée reçue que les règles, ça fait mal. Ah ben, madame, votre corps, vous ne le retrouverez pas. Voilà, vous avez accouché, c'est pas comme avant. Ce n'est pas vrai. Il y a parfois des traumatismes un peu plus costauds que d'autres qui sont plus difficiles à résorber, que ce soit physiquement ou psychologiquement, t'en parlais. Mais ce n'est pas normal. Ne restez pas avec ces douleurs. Continuez de chercher. C'est vous qui avez raison. Il ne faut pas rester avec ça. Et là, il y a une ressource vraiment incroyable. C'est la personne avec qui je travaille, mon associé, qui l'a écrite. Donc, c'est un livre qui s'appelle « Si j'avais su » de Catherine Ribus et qui parle justement de l'ostéopathie urogynécologique et de ce qu'elle peut apporter aux femmes. Je vous invite vraiment à le lire et à le passer de femme en femme. parce qu'il n'y a pas de raison de rester avec soi. Donc c'est vraiment un livre au service de la femme qui explique en quoi l'ostéopathie peut aider. Voilà. Et un petit nota bene, c'est pareil pour les hémorroïdes qui traînent et les fuites urinaires qui lâchent pas. Vous n'êtes pas censé avoir des fuites urinaires en postpartum immédiat. Ok, en postpartum plus long, non. En gros, après l'accouchement, pendant 15 jours, il y a plein de choses qui peuvent être un peu en vrac. Passer 15 jours, 3 semaines, quand ça commence à traîner, consultez. Vous avez autre chose à faire en postpartum que de vous faire pipi dessus toute la journée et d'avoir des hémorroïdes qui vous empêchent de vous asseoir, surtout si vous allaitez. Enfin, non, mais tout court d'ailleurs, parce que pour donner un biberon, je suis débile, mais on est assise aussi. Venez consulter, ne restez pas avec ça. Prenez ce temps-là, c'est du temps de gagner pour la suite et de l'énergie et tout. Et pour retrouver votre vie intime, c'est hyper important.
Et de ne pas avoir honte de demander, parce que les professionnels ont l'habitude aussi de voir ça, de soigner ça. Et si le professionnel ou la professionnelle en face ne sait pas, continuez à trouver. Il y a des personnes qualifiées, comme tu disais du coup, Charlotte, avec aussi ce livre qui a l'air super intéressant. Mais ne restez pas avec ça, parce que pareil, j'ai des mamans pour qui, par exemple, tu parlais d'hémorroïdes, qui ont encore des hémorroïdes et qui, ça bloque aussi par rapport à la vie intime.
Ok, et donc du coup, après, on avait aussi une question sur les sécheresses, pour le coup.
Ouais. Alors, les sécheresses. Donc, quand on allaite, j'en ai parlé un petit peu en amont, mais quand on allaite, on a du coup le taux d'œstrogène qui diminue. Et quand il diminue, ce taux d'œstrogène, ça peut créer des sécheresses vaginales. Donc là, c'est physiologique par rapport à ça. Donc, comment on peut contrecarrer quand on allaite, qu'on a envie de rapport intime, parce que ça part aussi, ça doit partir de votre désir d'avoir envie de rapport intime avec pénétration, parce qu'il y a aussi des rapports intimes non pénétratifs qui sont tout aussi plaisants. Et donc, il n'y a pas besoin de... Voilà, si vous avez encore des petites douleurs ou des appréhensions, que vous ne souhaitez pas une pénétration vaginale, très bien. Il y a tellement d'autres choses à explorer et avoir du plaisir avec. Quand il y a une pénétration vaginale et que là, vous sentez que c'est sec, ou même en masturbation aussi, vous sentez que vous êtes un petit peu sèche et du coup, c'est vrai que c'est moins plaisant. Moi, de toute façon, je recommande tout le temps d'utiliser des lubrifiants. Que ce soit en masturbation, en rapport intime avec des partenaires, d'utiliser du lubrifiant, de ne pas hésiter aussi pendant le rapport, si vous sentez que ça sèche encore, d'en remettre. Il n'y a pas de honte à utiliser du lubrifiant. Au contraire, c'est pour votre plaisir. Okay. Donc ça, c'est important. Alors, il y a le physiologique, mais il y a aussi par rapport à l'excitation aussi qui peut être psychologique. Ça peut être des fois aussi un signe de « ok, peut-être que je ne suis pas suffisamment excitée parce que la manière dont je suis caressée ou j'ai peut-être pas la tête à ça ou en fait, j'en avais pas vraiment envie. » Là, du coup, c'est autre chose. Si c'est ce cas-là, c'est pas en ajoutant du lubrifiant que ça va résoudre les problèmes. Là, c'est vraiment soit d'être accompagné, soit de se poser les questions de « ok, comment je peux avoir du coup une sexualité qui m'excite, qui me donne envie ?»
Oui, là, on en revient au sujet de la libido en général, de ce temps pour soi, comment se trouver, se trouver différemment après la grossesse et l'accouchement. Ok, très bien. Est-ce qu'on a parlé de tout ?
Ça me semble plutôt pas mal. Plutôt pas mal par rapport à tout ça. Donc, il y a vraiment dans l'allaitement, il y a vraiment, comme vous l'avez entendu, le côté physiologique et puis le côté psychologique où des fois, il a aussi sa part, son impact. Et donc c'est, voilà, si vous posez des questions par rapport à ça, il y a plein de professionnels de santé qui peuvent vous accompagner, qui peuvent répondre à vos questions. De jamais rester seul face à vos souffrances, à vos douleurs ou même à vos questionnements, de sentir vraiment que vous avez votre place et que vous êtes sentez comme une team aussi dans votre couple. Ça, c'est aussi important par rapport à cette libido.
Ouais, et puis rappelez que de façon générale, il n'y a pas de normalité en sexualité. La normalité, elle vous appartient, elle vous appartient à vous en tant que personne et à votre partenaire. Et c'est l'alchimie de ces deux normalités qui doit se... ces deux normalités-là doivent se rencontrer pour que ça se passe bien. Donc, échanger, communiquer.
Oui, pas de pression par rapport à « Ah, je dois recommencer des rapports intimes ». Il n'y a pas de pression par rapport à ça, c'est comme vous le sentez. Et d'ailleurs, quand on pense reprendre des rapports intimes, vous avez le droit aussi d'avoir cette réflexion de « Qu'est-ce que j'ai envie de mettre dans mes rapports intimes maintenant ?»
Ouais, donc ouais, vraiment, vraiment très important d'échanger avec l'autre, parce que si les envies diffèrent, le mieux c'est d'en parler et d'expliquer pourquoi, parce que la plupart du temps, sinon, ça crée des incompréhensions, l'autre qui se dit, tiens, il ou elle n'a pas envie de moi, enfin, bref, et ça fait qu'aggraver finalement quelque chose qui n'était pas un problème à la base.
Tout à fait.
C'est ça. Ok, très bien. Bon, ça fait un bon point sexualité et allaitement. Je crois qu'on a dit pas mal de choses. On parlera pas de cette histoire de timing, de reprise des rapports après l'accouchement, parce que qu'il y ait eu des études ou pas, on donnera pas de chiffres. Ce chiffre-là, c'est...
Oui. Et puis même, en fait, dans les recherches, quand ils parlent de reprise des rapports intimes, c'est toujours reprise des rapports intimes avec pénétration. Alors que la vie sexuelle, elle est beaucoup plus large que ça. Donc, franchement, vous ne mettez pas la pression par rapport à ça. Juste faites des choses qui vous font du bien. Il n'y a pas de normalité, comme tu disais. On ne sait pas ce qui se passe chez les voisins et les voisines. Faites-vous ce qui vous semble bon pour vous, pour votre couple et l'équilibre de votre couple et de votre vie de famille.
Ouais, et si par contre déséquilibre commence à s'installer, que ça dérange votre partenaire et que... Bah, et qu'on ne retrouve pas l'équilibre et que ça commence à poser problème, et bah, c'est le moment d'aller consulter. Il y a donc des gens comme Camille qui sont spécialisés là-dedans, et il n'y a pas de honte à aller consulter quelqu'un sur ces sujets-là. Au contraire, c'est en allant parfois voir une tierce personne comme ça que ça permet de déverrouiller des choses, d'ouvrir des vannes et que la vie reprenne son cours de façon toujours différente, mais tout aussi cool après.
Exactement.
Ok, génial. Donc voilà, en résumé, ne restez pas seule dans tout ça. Et vraiment, 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 après l'accouchement, outre l'allaitement, il y a plein de choses qui peuvent empêcher un retour à la sexualité tout court. Ne restez pas seule avec ces problèmes. C'est très important d'aller consulter.
Ouais.
On finira là-dessus. Merci beaucoup, Camille.
Merci, Charlotte.
Hâte d'avoir la sortie de ton livre. Je pense que l'épisode sortira avant ça. Donc okay. Les gens seront... Ça leur fera un teaser. Merci beaucoup, beaucoup, et à tous et à toutes, à très bientôt dans Milkshaker. Que ce soit votre première écoute ou que Milkshaker vous accompagne régulièrement, merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Pour suivre l'actualité du podcast, ça se passe sur le compte Instagram du même nom ou sur mon site internet charlotte-bergerot.fr, où vous trouverez tous les épisodes et la rubrique Milk Letters. On se quitte encore et toujours avec Emma, la voix officielle de Milkshaker et son titre I'll Be There, qu'on ne présente plus. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. D'ici là, n'oubliez pas, prenez soin de vous, milkshakez autant que vous le voudrez et bousculons ensemble les idées reçues sur l'allaitement maternel.
I hate to see you down. Can't stand to know your hurt. When you say it's getting loud. The voices in your heart. You know I get it, so let it all out. Keep your head up, your masterpiece, and I'll swear that I'll be there by your side. A text away, you know you can find me. It just takes a whisper and I'll be there to listen. I got you, I'll fight with you. Cause I love you. I'll be there. I'll be there. Oh, I'll be there. I'll be there. I know I'm not perfect. Sometimes I look myself. But I hope you know I care. You can meet me anywhere. And you know I get it, so let it all out. If anyone comes at you, then I'll swear that I'll be there by your side. A text away, you know you can find me. It just takes a whisper and I'll there to listen. I got you, I'll fight with you. Cause I love you. I'll be there. I'll be there. be there. Trust me, every time I have your back, and I know that you'll do the exact same for me. Side by side, don't even need to talk. You know I get it, so let it all out. Keep your head up, your masterpiece, and I'll swear that I'll be there by your side. A text away, you know you can find me. It just takes a whisper and I'll be there to listen. I got you, I'll fight with you, 'cause I love you. I'll be there, I'll be there, so I'll be there, I'll be there.